Évangile selon Luc, chapitre 13. Tous sont passibles du jugement. Versets 1 à 5.
Lecture de la parole. Or, en ce même temps, quelques-uns se trouvaient là présents, qui lui racontèrent ce qui s'était passé touchant les Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et Jésus, répondant, leur dit: Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Ou ces 18 sur qui tomba la tour dans Siloé et qu'elle tua, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement.
Lecture de l'étude. On rapporta à Jésus un fait scandaleux qui s'était passé en Galilée. Pilate avait mêlé le sang de Galiléens avec leur sacrifice. Selon la connaissance que les Juifs avaient du gouvernement de Dieu, sous lequel ceux qui avaient péché en recevaient la punition tôt ou tard, ils jugeaient ces Galiléens coupables d'actes qui avaient attiré sur eux le châtiment infligé par Pilate. Jésus leur répondit: Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Ou ces 18 sur qui tomba la tour dans Siloé et qu'elle tua, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Versets 2 à 5. Comme Jésus l'a montré à la fin du chapitre précédent, les Juifs arrivaient à la veille des jugements qui devaient mettre fin à leur existence nationale, Dieu ne pouvant prolonger beaucoup plus le temps de sa patience envers eux. Sauf ceux qui se repentiraient, tous allaient périr. Aussi longtemps que Dieu s'occupait de son peuple, auquel il envoyait ses prophètes et enfin son Fils, il réprimait le mal qui surgissait en punissant les coupables et souvent la nation entière. Mais à ce moment-ci de l'histoire des Juifs, tous étaient si coupables que s'il arrivait un malheur aux uns ou aux autres, cela ne voulait pas dire qu'ils l'eussent mérité davantage que ceux qui étaient épargnés. Si les jugements ne les avaient pas tous atteints, c'est que Dieu attendait encore pour faire grâce à plusieurs. Ils étaient en chemin avec leur partie adverse avant d'être traînés devant le juge. C'était aussi l'année où le vigneron soignait encore le figuier. Verset 8. Comme Jésus le leur dit, ceux qui se repentiraient échapperaient au sort qui menaçait la nation tout entière. Chose naturelle au cœur de l'homme, qui se croit meilleur que d'autres, il pense que, s'il arrive un malheur à ses semblables, c'est un jugement de Dieu. On oublie que, devant Dieu, tous sont coupables. Dans les temps où se trouvaient les Juifs, temps analogues à ceux où nous vivons, ce jugement porté sur les victimes de maux et de calamités diverses, individuellement ou comme famille ou comme nation, n'est pas juste, parce qu'aujourd'hui, comme alors, le monde a atteint un degré de culpabilité tel que les châtiments sont près de l'atteindre. Dieu s'occupe de faire grâce à quiconque répond aux appels de son amour. S'il permet que des calamités tombent sur certaines personnes ou sur certains peuples, ce n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui atteindra tous ceux qui, aujourd'hui, ne se repentent pas. Chacun doit se préoccuper de son propre état devant Dieu, se juger et se convertir pendant qu'il en est temps. Le figuier inutile. Versets 6 à 9.
Lecture de la parole. Et il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Et il dit au vigneron, « Voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve point, coupe-le. Pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre ?» Et répondant, il lui dit, « Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier, et peut-être portera-t-il du fruit. Sinon, après, tu le couperas. »
Lecture de l'étude. Le Seigneur présente l'état du peuple juif au moyen de la parabole du figuier qu'un homme avait planté dans sa vigne et qui ne rapportait point de fruits. Le figuier est souvent pris comme figure d'Israël dans les Écritures. Voir Joël 1, verset 7.
Elle a réduit ma vigne en une désolation, mon figuier en un tas de bois. Elle l'a écorcé entièrement et l'a jeté par terre. Ses rameaux ont blanchi.
Matthieu 21, verset 18 à 22.
Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Et il n'y trouva rien que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Et les disciples, le voyant, en furent étonnés, disant, « Comment en un instant le figuier est-il devenu sec ?» Et Jésus répondant leur dit, « En vérité, je vous dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si même vous disiez à cette montagne, « Ôte-toi et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez.
Marc 11, verset 13.
Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais, y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues.
Il est aussi représenté par une vigne. Psaume 80, verset 8. À 11.
Tu as transporté d'Égypte un cep, tu as chassé les nations et tu l'as planté. Tu as préparé une place devant lui, il a poussé des racines et a rempli le pays. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses sarments étaient comme des cèdres de Dieu. Il étendait ses pampres jusqu'à la mer et ses pousses jusqu'au fleuve.
Ésaïe 5, verset 1 à 7.
Je chanterai à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, et il la fossoya, et en ôta les pierres, et la planta de ceps exquis. Et il bâtit une tour au milieu d'elle, et y tailla aussi un pressoir. Et il s'attendait à ce qu'elle produirait de bons raisins, et elle produisit des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages? Et maintenant, je vous apprendrai ce que je ferai à ma vigne. J'ôterai sa haie, et elle sera broutée. J'abattrai sa clôture, et elle sera foulée aux pieds, et je la réduirai en désert, elle ne sera pas taillée, et elle ne sera pas sarclée, et les ronces et les épines monteront, et je commanderai aux nuées qu'elle ne laisse pas tomber de pluie sur elle. Car la vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont la plante de ses délices, et ils s'attendaient au juste jugement. Et voici l'effusion de sang, à la justice, et voici un cri.
Joël 1, verset 7.
Elle a réduit ma vigne en une désolation, mon figuier en un tas de bois.
Il est aussi représenté par un olivier, Jérémie 11, verset 16.
L'Éternel avait appelé ton nom olivier vert, beau de son fruit excellent. Au bruit d'un grand tumulte, il a allumé un feu contre lui, et ses branches sont cassées.
Romains 11, verset 24.
Car si toi, tu as été coupé de l'olivier, qui selon la nature était sauvage, et a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier ?
Sous toutes ces figures, Dieu montre qu'il attendait du fruit de son peuple sous divers caractères. De la vigne, il attendait la joie, du figuier le fruit, de l'olivier la puissance, mais sans avoir jamais rien eu. Dans les versets qui nous occupent, le propriétaire, voyant qu'il avait compté en vain sur du fruit pendant 3 ans, dit au vigneron de couper le figuier. Mais le vigneron répondit, « Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier, et peut-être portera-t-il du fruit. Sinon, après, tu le couperas. » Versets 8 et 9. Les soins donnés au figuier durant cette dernière année représentent le travail du Seigneur au milieu de son peuple. Il usait de patience et de bonté envers tous. Il accomplissait son œuvre d'amour en faisant tout ce qui était possible pour que le cœur naturel, s'il en avait la capacité, portât du fruit pour Dieu, peine perdue. Après cette dernière épreuve, il n'y avait plus rien à faire et rien à attendre. Le maître allait couper le figuier. Cette parabole confirme ce que nous avons vu au verset 1 à 5 et au chapitre 12, versets 54 à 59, savoir que le jugement allait fondre sur le peuple juif.
Et il dit aussi aux foules, « Quand vous voyez une nuée se lever de l'Occident, aussitôt vous dites, une ondée vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel, et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Car quand tu vas avec ta partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d'en être délivré, de peur qu'elle ne te tire devant le juge, et le juge te livrera au sergent, et le sergent te jettera en prison. Je te dis que tu ne sortiras point de là, que tu n'es payé jusqu'à la dernière pite. »
La présence de Jésus était le dernier moyen montrant que Dieu s'occupait de l'homme dans la chair, car Israël représentait la race humaine pécheresse. Par ce peuple, Dieu a éprouvé ce qu'était la famille du premier Adam. Comme conséquence de cette épreuve, le premier homme a été mis de côté, jugé à la croix dans la mort de Christ. Grâce à cette mort, l'homme né de nouveau, le croyant, porte du fruit pour Dieu. Un Israël nouveau pourra être fondé à la gloire de Dieu et servir de centre à la bénédiction terrestre durant le règne du Fils de l'homme. En attendant, le peuple rejeta Jésus, malgré tous les soins qu'il lui prodiguait. On avait beau déchausser le figuier et lui mettre de l'engrais, cela ne changeait pas sa nature. Guérison d'une infirme, versets 10 à 17.
Lecture de la parole. Or, il enseignait dans l'une des synagogues en un jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait nullement se redresser. Et Jésus, la voyant, l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il posa les mains sur elle, et à l'instant elle fut redressée et glorifiait Dieu. Et le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri un jour de sabbat, répondant, dit à la foule, « Il y a 6 jours où il faut travailler. Venez donc ces jours-là et soyez guéris. » Et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur donc lui répondit et dit, « Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne un jour de sabbat, et ne les mène-t-il pas boire? Et celle-ci, qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée, voici, il y a 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat? Et comme il disait ces choses, tous ses adversaires furent couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui.
Lecture de l'étude. Malgré tout, le Seigneur continuait son œuvre de grâce. Il travaillait tant que durait le jour. Jean 9, verset 4.
Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler.
Un sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue, et là, il vit une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans, et elle était courbée et ne pouvait nullement se redresser. Il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il posa les mains sur elle, et à l'instant, elle fut redressée et glorifiait Dieu. Ce miracle, accompli en un jour de sabbat, indigna le chef de la synagogue, qui s'adressa à la foule en ces termes, « Il y a 6 jours où il faut travailler. Venez donc ces jours-là et soyez guéris, et non pas le jour du sabbat. » Cet homme misérable reconnaît à Jésus le pouvoir de faire des miracles, mais il veut qu'il les accomplisse en tenant compte de l'ordre de choses établi sous la loi, dont le sabbat faisait partie. Cet ordre supposait l'homme capable d'obéir et, par conséquent, d'avoir part au repos dont le sabbat était la figure. Jésus, au contraire, était venu au milieu de son peuple parce que, sous le système de la loi, ce peuple allait périr. Il venait le délivrer des conséquences du péché et de l'asservissement à Satan. Il ne pouvait se reposer au milieu de l'état de péché où sa créature se trouvait. Son amour ne le lui permettait pas. Il n'observait donc pas la loi pour accomplir son œuvre de grâce. Comme nous l'avons vu au chapitre 5, versets 36 à 39, l'activité de la grâce ne s'exerçait pas dans le cercle restreint du système légal. On ne mettait pas le vin nouveau de la grâce dans les vieilles outres de la loi.
Chapitre 5, versets 36 à 39. Et il leur dit aussi une parabole. Personne ne met un morceau d'un habit neuf à un vieil habit. Autrement, il déchirera le neuf, et aussi la pièce prise du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau rompra les outres et il se répandra, et les outres seront perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves, et tous les deux se conservent. Et il n'y a personne qui ait bu du vieux qui veuille aussitôt du nouveau, car il dit « le vieux est meilleur ».
S'adressant au chef de la synagogue, Jésus lui dit « Hypocrite ». Chacun de vous ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne un jour de sabbat et ne les mène-t-il pas boire? Et celle-ci, qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée, voici, il y a 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat? Versets 15 à 16. Jésus qualifie d'hypocrite cet homme qui se sert de la loi pour s'opposer à l'action de la grâce envers une pauvre femme liée par Satan, alors que ses observateurs de la loi déliaient leur bétail le jour du sabbat. Si les Juifs religieux s'étaient rendus compte de leur état misérable sous la puissance de Satan, s'ils avaient compris que la puissance de Dieu, en amour, était là dans la personne de Jésus pour les en délivrer, ils auraient compris aussi que l'observation du sabbat n'arrêterait pas cet amour qui déliait du pouvoir de Satan une fille d'Abraham. Mais, avec l'hypocrisie, une haine acharnée contre Jésus se manifestait chez ces gens religieux. Il y a une différence entre eux et la foule qui se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui, alors que ses adversaires, en l'entendant, furent couverts de honte. Dans tous les évangiles, on trouve la foule plus accessible, car c'est au milieu d'elle qu'il y avait le plus de besoins, dont ne se préoccupaient pas ceux qui prenaient la place de berger du troupeau d'Israël. Voir Matthieu 9, verset 36.
Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient las et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger.
Marc 6, verset 34.
Et Jésus, étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.
La maladie de cette femme montre une des formes sous lesquelles la puissance de Satan s'exerçait sur les hommes. Elle avait un esprit d'infirmité qui la courbait et l'empêchait de se redresser. Sans être, comme ceux qui sont appelés démoniaques, son infirmité avait pour cause un esprit satanique. Combien l'homme réalise peu dans quelle mesure il se trouve sous le pouvoir de Satan, alors qu'il se croit libre. Il n'y a d'homme libre que ceux qui ont été affranchis par la foi au Fils de Dieu. Voir Jean 8, versets 31 à 45.
Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité. » Et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendus libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Vous aussi donc, vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre Père. Ils répondirent et lui dirent, « Abraham est notre père. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchiez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai ouïe de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent donc, « Nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi je procède de Dieu et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. Vous, vous avez pour Père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre Père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. »
Le royaume de Dieu. Versets 18 à 21.
Lecture de la parole. Et il disait, « À quoi est semblable le royaume de Dieu, et à quoi le comparerais-je? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et jeta dans son jardin. Et il crut et devint un grand arbre, et les oiseaux du ciel demeuraient dans ses branches. » Et il dit encore, « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé. »
Lecture de l'étude. Quand Israël aurait pris fin, il serait remplacé par le royaume de Dieu. Ce royaume s'établirait par la prédication et la réception de l'Évangile, et non avec puissance et gloire, comme cela aura lieu lorsque Jésus viendra comme Fils de l'homme. Jusque-là, il prendra une certaine forme, le roi étant absent. C'est ce que montrent les versets 18 et 19 où Jésus le compare à un grain de moutarde qu'un homme prit et jeta dans son jardin, et il crut et devint un grand arbre, et les oiseaux du ciel demeuraient dans ses branches. Un grand arbre symbolise toujours, dans la parole, une puissance terrestre ou un personnage éminent. C'est ce que devint le royaume de Dieu en l'absence du roi. Au lieu de garder le caractère de petitesse aux yeux du monde qu'il avait au début, voir, pour la signification du grand arbre, Assur, en Ézéchiel 31, versets 1 à 9, et Nebuchadnezzar, en Daniel 4, versets 20 à 27.
Ézéchiel 31, versets 1 à 9. Et il arriva la 11e année, au 3e mois, le premier jour du mois, que la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, dis au Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui es-tu semblable dans ta grandeur ? Voici, Assur était un cèdre sur le Liban, beau par sa ramure et touffu, donnant de l'ombre et de haute taille, et sa cime était au milieu des rameaux feuillus. Les eaux l'ont fait grandir. L'abîme l'a élevé en hauteur, ses rivières coulaient autour de ses plans, et il envoyait ses canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa hauteur s'éleva par-dessus tous les arbres des champs, et ses branches se multiplièrent, et ses rameaux s'allongèrent, parce qu'il poussait à cause des grandes eaux. Tous les oiseaux des cieux faisaient leur nid dans ses rameaux. Et toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses branches, et toutes les nations nombreuses habitaient sous son ombre. Et il était beau dans sa grandeur, et dans la longueur de ses branches, parce que sa racine était auprès de grandes eaux. Les cèdres dans le jardin de Dieu ne le cachaient pas, les cyprès n'égalaient point ses rameaux, et les érables n'étaient pas comme ses branches. Aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui était semblable en beauté. Je l'avais fait beau dans la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden qui étaient dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Daniel 4, versets 20 à 27. L'arbre que tu as vu, qui croissait et devenait fort, et dont la hauteur atteignait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de toute la terre, et dont le feuillage était beau, et le fruit abondant, et qui avait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes des champs, et dans les branches duquel demeuraient les oiseaux des cieux, c'est toi, ô roi, qui t'es agrandi, et est devenu puissant. Et ta grandeur s'est accrue, et atteint jusqu'aux cieux, et ta domination jusqu'au bout de la terre. Et quant à ce que le roi a vu un veillant, un saint, descendre des cieux, et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, toutefois, laissez dans la terre le tronc de ses racines, avec un lien de fer et des reins autour de lui, dans l'herbe des champs, et qu'il soit baigné de la rosée des cieux, et qu'il ait sa part avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps passent sur lui. » C'est ici l'interprétation au roi et la décision du Très-Haut, ce qui va arriver au roi, mon Seigneur. On te chassera du milieu des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs, et on te fera manger l'herbe comme les bœufs, et tu seras baigné de la rosée des cieux, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut. Et quant à ce qu'on a dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, ton royaume te demeurera, quand tu auras connu que les cieux dominent. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable, et ronds avec tes péchés par la justice, et avec ton iniquité par la compassion envers les affligés, si ce peut être un prolongement de ta paix.
Les oiseaux qui logent dans les branches sont les hommes qui viennent chercher sous cette puissance avantages et protections. Un autre caractère du royaume de Dieu est présenté par du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé, verset 21. Il s'agit ici des doctrines humaines qui se sont mélangées à ce qui vient de Dieu. Au lieu de demeurer attachés à la parole qui a formé le royaume, les hommes y ont introduit leurs propres pensées. Dès le début de l'histoire de la chrétienté, le faux enseignement s'est développé et, comme le levain, il a pénétré la pâte tout entière. Dans le chapitre 13 de Matthieu, les divers caractères du royaume des cieux sont présentés par 7 paraboles. Les 3 dernières, celles du trésor, de la perle et des poissons, présentent ce qui est de Dieu au milieu de ce qu'est devenu le royaume, tandis que les 3 précédentes montrent le côté extérieur, livré parmi le bon grain, le grand arbre et le levain. Luc fait ressortir la forme que prend le royaume de Dieu plutôt que, comme Matthieu, ce qui est bon et mauvais. Comment on entre dans le royaume, versets 22 à 30.
Lecture de la parole. Et il allait par les villes et par les villages, enseignant et poursuivant son chemin vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, « Seigneur, ceux qui doivent être sauvés sont-ils en petit nombre ?» Et il leur dit, « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous !» et que répondant il vous dira, « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il dira, « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Là seront les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetez dehors. Et il en viendra d'Orient et d'Occident, et du Nord et du Midi, et ils s'assieront dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers.
Lecture de l'étude. Jésus poursuivait son chemin vers Jérusalem en enseignant dans les villes et les villages. Moment solennel pour le peuple, car c'était la dernière fois que le Seigneur passait dans ces lieux. Son rejet allait être consommé par sa crucifixion. Un de ceux qui l'écoutaient lui dit, « Seigneur, ceux qui doivent être sauvés sont-ils en petit nombre ?» Verset 23. Il s'agissait de ceux qui seraient sauvés du jugement prêt à fondre sur la nation. Le Seigneur, dans ses enseignements, leur montrait les conséquences de son rejet, verset 33-35. Mais Ésaïe avait déjà dit, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, le résidu seul sera sauvé. Romains 9, verset 27 et Ésaïe 10, verset 22. Au dernier jour, ce résidu formera le peuple qui jouira du millénium, tandis que celui du temps du Seigneur est entré dans l'Église. La question faite à Jésus était très opportune, mais ce qui importait plus encore, c'était de savoir qui serait sauvé et comment on le serait. Jésus y répond en disant, « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. » Verset 24. Il n'était plus question d'être enfant d'Abraham pour entrer dans le royaume. Jésus, humilié et rejeté, en était la porte. Il fallait croire en lui, le recevoir en reconnaissant son état de péché. Par cette porte étroite, on ne peut passer que dépouillé de tout ce qui fait l'orgueil de l'homme naturel. Beaucoup, dit Jésus, chercheront à entrer, et ils ne pourront pas. Parce qu'ils chercheront à entrer, par un autre moyen, bonnes œuvres, religion de la chair, foi d'intelligence et tant d'autres choses qui présentent à l'homme un accès plus facile, en apparence, que la porte étroite d'un Jésus crucifié, ne donnant aucun passage à ce qui est de la chair. Il n'est pas question de personne qui chercherait à entrer par la porte étroite et n'y réussirait pas, car tous ceux qui voudront entrer par la porte étroite le pourront. Il n'y a pas deux portes, il n'y a pas deux moyens d'être sauvé. Pierre le dit aux Juifs en acte 4, verset 12, « Il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » C'est le nom de Jésus crucifié. Non seulement il ne faut pas chercher une autre entrée, mais il faut se hâter d'y passer, car cette porte étroite va se fermer. Jésus dit, « Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous !» et que répondant, il vous dira, « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes, alors, etc. » Ce temps s'approche, chers amis. La porte demeure encore ouverte aujourd'hui, quoique étroite. Elle mène à la vie. Celui qui seul l'a ouverte y fait entrer le pécheur qui reçoit Jésus comme sauveur. Lui aussi la fermera. Lorsqu'il ouvre, nul ne peut fermer. Quand il fermera, nul ne pourra ouvrir. Apocalypse 3, verset 7.
Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie écrit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et nul ne fermera, qui ferme, et nul n'ouvrira. »
On aura beau se vanter des privilèges reçus en se trouvant en rapport avec le Seigneur, comme ceux des Juifs qui l'ont entendu enseigner dans leur rue, qui ont mangé et bu en sa présence, verset 26. Aucun de ces avantages ne pourra faire ouvrir la porte, ni celui non plus d'avoir fréquenté des chrétiens, d'avoir suivi les réunions, d'avoir été élevé par des parents chrétiens. Il n'y a qu'un temps pour entrer, c'est aujourd'hui, comme il n'y a qu'une porte, Jésus crucifié, celui que Paul prêchait à Corinthe. 1 Corinthiens 1, verset 23.
Mais nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion de chute, aux nations folie.
À tous ceux qui voudront se targuer des privilèges dont ils auront joui, le Seigneur répondra, « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Verset 27. Pour les Juifs qui se prévalaient de leur qualité d'enfants d'Abraham, croyant avoir par là droit au royaume, tout en méprisant Jésus, il dit, « Là seront les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetez dehors. » Verset 28. Les patriarches et les prophètes seront dans le royaume parce qu'ils ont cru Dieu et, par conséquent, en celui qui devait venir, Jésus, qui était au milieu des Juifs alors. Sur le même principe de foi, il en viendra d'Orient et d'Occident, et du Nord, et du Midi, et ils s'assieront dans le royaume de Dieu, verset 29, alors que les pleurs et les grincements de dents seront la part de ceux qui auront possédé dans ce monde les plus grands privilèges sans en faire usage. En vertu de la mort de Jésus, l'Évangile serait prêché à toutes les nations, et beaucoup entreraient dans le royaume. C'est ce que Jésus leur dit encore, et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers, verset 30. Les gentils étaient les derniers, car le privilège d'être en relation avec Dieu n'appartenait qu'aux Juifs. Mais ceux qui crurent devinrent les premiers, comme les Juifs qui ne crurent pas devinrent les derniers à cause du rejet de leur Messie. Par la grâce de Dieu, ils reprendront leur place avec le résidu croyant qui jouira des bénédictions millénaires à la tête de tous les peuples de l'univers, alors que ceux qui auront fait partie de l'Église professante sans la vie se trouveront au dernier rang en leur qualité d'apostats, objet des jugements qui s'approchent aujourd'hui. C'est ce que Paul enseigne en Romains 11, versets 17 à 32. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais un olivier sauvage as été hanté au milieu d'elles, et est devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées afin que moi je fusse hanté. Bien, elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité, et toi, tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains, si en effet Dieu n'a pas épargné les branches qui sont elles selon la nature, qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi si tu persévères dans cette bonté, puisque autrement, toi aussi, tu seras coupé. Et eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier qui selon la nature était sauvage, et a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété, et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien aimés à cause des pères, car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Car comme vous aussi vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, de même ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin qu'eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Le Seigneur abandonne la maison d'Israël. Versets 31 à 35.
Lecture de la parole. En ce même jour, des pharisiens vinrent lui disant, « Retire-toi et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Et il leur dit, « Allez, dites à ce renard, voici, je chasse des démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis consommé. Mais il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il ne se peut qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est abandonnée, et je vous dis que vous ne me verrez point jusqu'à ce qu'il arrive que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »
Lecture de l'étude. Des pharisiens vinrent avertir Jésus qu'Hérode voulait le tuer. Était-ce véritablement de la bienveillance? Mais cela donne occasion au Seigneur d'avertir les Juifs de la situation dans laquelle il allait les laisser, puisque tout ce que Dieu avait fait pour eux depuis les prophètes jusqu'à Christ, avait été vain. Jésus répond d'abord aux pharisiens. « Allez, dites à ce renard, voici, je chasse des démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis consommé. Mais il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il ne se peut qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Verset 32-33. Jésus ne se préoccupe pas des intentions d'Hérode. Il accomplit le service qu'il a reçu de Dieu au milieu du peuple qui va le crucifier, sachant qu'il n'aurait pas plus de succès que les prophètes qu'ils avaient fait périr. De la sorte, son service se terminera, pleinement accompli, par sa mort à Jérusalem, et non auparavant, par la main d'Hérode, qui ne pouvait pas plus le faire mourir que Pilate n'y aurait réussi, si Dieu ne lui en avait pas donné le pouvoir. Au cours de toute sa vie, Jésus est un modèle parfait. Dans cette circonstance, nous le voyons poursuivre son œuvre sans s'inquiéter de l'opposition qui lui est faite, ni des conséquences de sa fidélité. Quel enseignement pour nous ! Nous n'avons, comme lui, qu'à suivre le chemin que Dieu nous trace, sans nous occuper de l'opposition que nous pouvons y rencontrer. Quelqu'un a dit : bien faire, laisser dire et passer son chemin. C'est un chemin de souffrance, mais c'est celui de l'obéissance et de la communion avec le Seigneur. Nous avons besoin, la jeunesse surtout, d'être pénétrés de tels principes dans un siècle comme celui où nous vivons, où il y a si peu d'énergie pour le bien, où l'opinion d'autrui a tant de puissance pour détourner du devoir. Il faut avoir la certitude d'être dans le chemin de Dieu, de connaître sa pensée avec le ferme désir de faire sa volonté. Alors on peut compter sur lui pour vaincre les difficultés qui se présentent toujours sur la voie de l'obéissance. En présence de sa mort qui allait consommer la culpabilité de Jérusalem, Jésus, dans son amour méconnu par la cité rebelle, s'écrie « Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Verset 34. Jésus fait allusion au ministère des prophètes que lui, l'Éternel de l'Ancien Testament, avait envoyé pour ramener le peuple à lui. Nous lisons en 2 Chroniques 36, versets 15 et 16, « Et l'Éternel, le Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et envoyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Mais ils se moquaient des messagers de Dieu, et méprisaient ses paroles, et se raillaient de ses prophètes. » Voir aussi Jérémie 7, versets 13 et 25 et 26.
« Et maintenant, parce que vous avez fait toutes ces actions, dit l'Éternel, et que je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant, et que vous n'avez pas écouté, et que je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Depuis le jour que vos pères sortirent du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, chaque jour me levant de bonne heure et les envoyant. Mais ils ne m'ont point écouté, et ils n'ont point incliné leur oreille, et ils ont roidi leur cou, ils ont fait pis que leur père. »
Jérémie 11, verset 7.
« Car j'ai protesté à vos pères au jour que je les ai fait monter du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour me levant de bonne heure et protestant, en disant « Écoutez ma voix. »
Jérémie 25, versets 3 et 4.
« Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, ces 23 ans, la parole de l'Éternel m'est venue, et je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant, et vous n'avez pas écouté. Et l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes, se levant de bonne heure et les envoyant, et vous n'avez pas écouté. Et vous n'avez point incliné vos oreilles pour écouter. »
Jérémie 26, verset 5.
pour écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie, me levant de bonne heure et les envoyant. Mais vous ne les avez pas écoutés. »
Jérémie 29, verset 19.
Parce que, dit l'Éternel, ils n'ont point écouté mes paroles quand je leur ai envoyé mes serviteurs les prophètes, me levant de bonne heure et les envoyant. Et vous n'avez point écouté, dit l'Éternel.
Jérémie 35, verset 15.
Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, me levant de bonne heure et les envoyant, disant, revenez donc chacun de sa mauvaise voie, et amendez vos actions, et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous habiterez sur la terre que j'ai donnée à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas incliné votre oreille, et vous ne m'avez pas écouté.
Jérémie 44, verset 4.
Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, me levant de bonne heure et les envoyant, disant, ne faites point cette chose abominable que je hais.
L'exemple touchant d'une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, nous fait comprendre avec quel amour le Seigneur cherchait à ramener à lui ce pauvre peuple qu'il abandonnait si facilement pour les idoles. Cet amour se manifesta surtout lorsque Dieu leur envoya son unique Fils bien-aimé, disant « Ils auront du respect pour mon Fils » Marc 12, verset 6. Maintenant, toutes les ressources divines étaient épuisées envers ce peuple responsable. Le Seigneur allait le quitter. Il dit aux Juifs, « Voici, votre maison vous est abandonnée, et je vous dis que vous ne me verrez point, jusqu'à ce qu'il arrive que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » verset 35. Paroles solennelles, puisqu'elles expriment l'abandon du peuple par celui qui avait pris soin de lui si longtemps. Mais elles font comprendre que celui qui était rejeté alors serait reçu un jour par le peuple repentant, le résidu futur d'Israël, qui, après un temps d'épreuves terribles, regardera vers celui qu'ils ont percé et dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». À cause de l'amour de Dieu, c'est toujours la grâce qui a le dernier mot. Car si du côté de l'homme tout est perdu, Dieu a ses ressources. Sur le pied de la responsabilité, l'homme ne peut rien obtenir, mais sur le pied de la grâce, il obtient tout, par la foi, en vertu de la mort de Christ.